Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour. En matière de lutte contre la pollution, certaines villes sont considérées comme des modèles. Curitiba, au sud du Brésil, est de celles-là. Nous verrons pourquoi dans la seconde partie de cette émission. Et puis il y a les villes qui ne sont pas des modèles, loin de là, mais qui tentent de réagir. Direction l'Ouganda à présent. En mai 2016, l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport sur la pollution atmosphérique des villes, révélant que Kampala, la capitale du pays, est particulièrement polluée. Cours d'eau envahis de détritus, fumée noire provenant de véhicules hors d'usage, particules fines, la pollution est généralisée. Pour la mairie de Kampala, qui subit déjà les conséquences du changement climatique, il est donc important d'agir. Les autorités de la ville ont donc lancé depuis peu une politique environnementale dynamique pour changer les habitudes des habitants et des institutions. C'est un reportage de Charlotte Cosset.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour, mon nom est Esso Galukande et je travaille pour l'autorité de la ville de Kampala en tant qu'adjoint à la production et au marketing. Aujourd'hui, nous avons une formation pour les fermiers. Et en fait, nous nous concentrons sur les fermiers en zone urbaine et périurbaine. Nous voulons leur enseigner certaines techniques, comme comment conserver l'alimentation pour le bétail. Mais nous voulons aussi leur enseigner des techniques de production de légumes en ville. Nous avons environ 300 personnes, alors qu'initialement nous avions prévu une centaine. Nous avons été vraiment submergés. C'est un énorme succès. Je pense que beaucoup de gens recherchent des solutions pour faire de meilleurs bénéfices et aussi pour réduire le coût de l'alimentation du bétail. Ils doivent relever plusieurs défis, comme le fait de travailler de petites parcelles, de trouver de bonnes semences et d'obtenir de nouvelles technologies qu'ils peuvent utiliser pour produire de la nourriture pour leurs animaux. Donc ce centre fait des démonstrations techniques qu'ils peuvent utiliser dans leur ferme. En tant que ferme urbaine, nous avons des cochons dont nous nous occupons et nous utilisons notre système appelé IMO. Ce sont des micro-organismes indigènes qui détruisent les odeurs des cochons. Et donc, par conséquent, vous pouvez avoir des cochons en ville sans aucune odeur. Cela fonctionne très bien. Par exemple, là, nous avons 200 cochons et je ne pense pas que vous puissiez sentir quelque chose. En fait, ça consiste en une litière faite de copeaux de bois et de foin. Nous faisons ce qui s'appelle une solution IMO en utilisant une bactérie que nous cultivons pendant une semaine. Et ensuite, il nous suffit d'en répandre toutes les semaines. 20 litres pour une unité suffisent à détruire les odeurs. Tout le monde peut en faire. Un autre produit que nous avons ici, ce sont les sacs de culture. Nous montrons aux gens qu'ils peuvent produire de la nourriture, même s'ils vivent dans un appartement. Cela se fait dans un sac et vous plantez verticalement. Vous pouvez produire suffisamment de légumes pour votre famille pour une année dans un sac de 100 kilos.
Je crois que cette ferme urbaine est écologique.
Oui, ça l'est, parce que nous cherchons toujours à recycler. Et en même temps, nous essayons de promouvoir le bio pour tous les systèmes. Nous faisons le maximum pour produire les légumes de manière biologique. C'est vraiment important parce que nous ne voulons pas dégrader l'environnement et nous voulons être sûrs de ce que nous mangeons.
Okay. Now here you can put lettuce, you can put cabbage, you can put spinach, you can put sukuma wiki. Then on top You put tomatoes, baobab onions, so everything that has got.
I'm about to graduate from the university, Makerere University.
Je vais bientôt être diplômée de l'université de Makerere. J'y ai fait un baccalauréat en sciences et nature. Je suis en train de chercher une manière de gagner un peu d'argent en attendant d'avoir un salaire. Mais pour l'instant, avant d'être diplômée, je souhaite commencer une petite entreprise agricole. Je suis convaincue par ces sacs de culture, car j'en ai vu avant sur Internet et dans de nombreux endroits. C'est comme de la culture urbaine, mais ils le font sur un plus petit espace. Vous pouvez le faire dans votre arrière-cour, et c'est vraiment bon marché et pratique. Ce qui est bien par rapport à d'autres modes de production, c'est que vous pouvez apprendre aux enfants comment cultiver de cette manière. Par exemple, disons que vous cultivez des tomates. On peut mettre 24 plants de tomates dans un sac de culture. 24 plants de tomates cultivées de manière conventionnelle vont avoir besoin de plus d'espace qu'un mètre carré. Et ce sera donc également plus d'un mètre carré que l'on va devoir arroser. Si je voulais arroser les mêmes 24 plants sur un terrain conventionnel, cela demanderait au moins 100 litres d'eau par semaine. Alors qu'avec ce sac, on a besoin de 50 litres. C'est une véritable économie et c'est bon pour l'environnement. Et avec cette méthode, les sols ne sont pas appauvris et je peux retirer le sac quand j'ai fini. Et comme il n'y a pas besoin d'ajouter de produits chimiques, c'est aussi bon pour le sol.
Est-ce que c'est important pour toi de respecter l'environnement ?
C'est très important parce que les générations futures ont besoin d'un endroit où vivre. Il nous faut penser à un futur pour tout le monde et ne pas seulement penser au présent, parce que les jeunes arrivent et nous allons vieillir. Donc nous devons leur laisser un meilleur environnement.
Donc ce n'est pas seulement une question d'argent.
Non, non, vraiment pas. Ok, bien sûr, tu peux penser à l'argent, c'est vrai. Tu peux évidemment te demander si cela est rentable. Après, tu penses à, est-ce que c'est bon pour l'environnement ? Alors si c'est ok, tu peux le faire. Si ce n'est pas bon, tu peux bien sûr continuer. Mais je pense qu'il ne faut pas aller sur cette voie. C'est vraiment important pour moi d'avoir quelque chose de respectueux. Cela doit être bon pour tout le monde, même pour ceux qui vivent autour de ma production. Par rapport aux pesticides, il y a des alternatives. Par exemple, j'ai lu quelque part que l'on peut utiliser de l'urine de lapin. Les produits bio sont meilleurs pour la santé et ils sont aussi meilleurs pour l'environnement. Donc je pense que c'est bien de regarder vers des alternatives aux pesticides et aux produits chimiques.
Nous conservons l'alimentation pour les animaux, afin qu'ils puissent être nourris pendant la saison sèche. Nous utilisons des déchets, comme le reste de patates douces, afin de faire de l'ensilage. Vous savez, habituellement, les restes de patates douces sont jetés pendant la période des récoltes, et pourtant ils peuvent être utilisés pour nourrir les animaux. Donc maintenant, nous formons les fermiers urbains à collecter ces déchets et à faire de l'ensilage qu'ils peuvent utiliser le reste du temps. C'est écologique et cela contribue à la sécurité alimentaire et à assurer les stocks pour les animaux. Parce qu'on peut ainsi nourrir ces animaux toute l'année et donc avoir du lait et cela crée des revenus.
Donc les gens sont très intéressés.
Les gens sont vraiment très intéressés. En fait, le nombre de participants espérés a été dépassé. Alors, comment j'explique cela ? Les gens sont vraiment demandeurs. D'habitude, après une présentation, normalement les gens s'en vont. Mais regardez, il pleut et les gens sont toujours là. Cela montre leur intérêt pour cette formation. Vous savez, la sécurité alimentaire est un vrai problème aujourd'hui. Les gens dépendent de leurs animaux et n'ont pas de travail. Donc quand ils se tournent vers la culture, ils doivent trouver une solution pour nourrir leurs animaux et obtenir un moyen de subsistance. Vous savez, le chômage est partout et il y en a tellement. C'est pour ça qu'ils vont vers l'agriculture urbaine.
Je suis moi-même un fermier, je viens de Mukono. Je devais venir parce que, vous savez, lorsque vous échangez avec d'autres fermiers, vous apprenez tellement. En vérité, j'ai appris beaucoup, surtout de cette dame ici, qui nous a donné des informations sur comment conserver la nourriture pour les animaux. C'est vraiment bien. Parce que, vous savez, pendant la saison des pluies, on a de l'herbe ou du foin, mais lorsque la saison sèche arrive, votre animal meurt de faim parce que vous n'avez pas de quoi le nourrir. Mais si vous apprenez comment préserver de la nourriture, alors c'est super. J'ai appris qu'il y avait des formations par un ami et j'ai reçu aussi de la publicité disant que nous allions avoir une démonstration agricole par KCCA à Kampala. J'ai donc décidé de venir. Ces exemples sont bons et je pense qu'il faut même plus d'explications. C'est pourquoi je voudrais acheter le CD de cette dame. Ainsi, quand je rentrerai à la maison, je pourrai réviser tout ce que j'ai entendu ici et avoir quelque chose de plus approfondi quand je le mettrai en pratique. Une autre chose, la façon dont ils ont fait les sacs de culture, je ne savais pas qu'il existait des choses comme celle-là. Quelqu'un m'a dit que je pouvais facilement les mettre dans ma parcelle et planter des fruits et des légumes et je pourrais consommer tout de suite. C'est aussi une chose intéressante que j'ai apprise ici.
Matu dali obadotya sikyamagezi okuyombera bantu obango nyize zenga kunyiziza tugendeka so simbala.
À Kampala, la politique de la ville est tournée vers les questions environnementales depuis peu. Jennifer Musisi est la directrice de Kampala Capital City Authority, KCCA.
5 years ago we came into the city to set up the...
Il y a 5 ans, nous sommes arrivés à la mairie pour mettre en place une nouvelle organisation en charge de la gestion de la ville, la Kampala Capital City Authority. Nous avons développé notre plan stratégique et ensuite, plus spécifiquement, des projets pour la ville. Toute notre vision est de faire de Kampala une ville attractive, vibrante et durable pour tous. Inévitablement, l'un des principaux points dans les objectifs de durabilité et d'attractivité sont les questions relatives au changement climatique. Nous avons, par conséquent, développé un plan d'action sur le changement climatique. Nous travaillons aussi pour promouvoir l'usage d'énergies renouvelables. Par exemple, nous travaillons à changer nos lampadaires par des systèmes fonctionnant au solaire. Nous avons aussi introduit le biogaz pour la cuisine dans les différentes écoles que nous gérons. Et nous avons aussi mis en place des cuisinières écologiques dans l'un de nos plus grands marchés afin d'aider les femmes à cuisiner d'une manière durable, sans charbon et sans bois de chauffe. Elles utilisent désormais des pierres volcaniques pour la cuisine. Nous avons voulu impliquer toutes les parties prenantes parce que nous savons que nous ne pouvons le faire seuls. Par exemple, en ce qui concerne les énergies renouvelables et le biogaz, nous avons approché d'autres acteurs comme les institutions, le secteur privé, les ministères concernés et les avons impliqués pour voir comment nous pouvions travailler ensemble afin d'être sûrs que notre stratégie réussisse. Nous avons aussi fait la promotion de projets d'énergie renouvelable dans les communautés que nous supportons, mais aussi dans nos écoles en sensibilisant les enfants. Il y a encore une longue route à parcourir, mais il y a maintenant une conscience à propos de la déforestation et de la nécessité de se tourner vers l'écologie. Ces 5 dernières années, nous avons travaillé à rendre la ville plus verte et il y a déjà un impact positif. Et nous encourageons les communautés à s'impliquer dans ces projets environnementaux.
Quels impacts ?
Des choses comme l'érosion. L'érosion des sols a diminué depuis que nous avons planté des arbres et des graminées. Et puis, ces plantations ont un impact direct sur la qualité de l'air que nous respirons en ville. Tout le monde est concerné et tous les acteurs doivent participer.
Mon nom est Sunday Emmanuel. Je suis le directeur de Capida. Capida est une organisation non lucrative spécialisée dans l'environnement et spécifiquement dans les technologies permettant de faire des économies d'énergie. Nous avons commencé il y a 3 ans. Nous visons les jeunes qui recyclent les déchets dans la ville et faisons des briquettes. Ces briquettes sont une forme d'énergie vraiment pas chère et qui sont utiles au niveau des ménages et aussi au niveau des institutions comme les hôtels. Nous sommes basés à l'université de Makerere qui nous aide à améliorer certaines de nos technologies pour nos briquettes. La Kampala City Council Authority est vraiment notre principal client. Ils achètent nos briquettes pour leur projet de couveuse de poussins à Kyanja, l'une des banlieues de Kampala. Là-bas, ils forment des jeunes à des projets durables qu'on peut réaliser soi-même. Nous recyclons tout type de déchets, y compris les déchets organiques humains. Ici, dans la ville de Kampala, il y a des tas de poubelles, ainsi que des déchets en provenance des abattoirs. Des abattoirs qui sentent vraiment mauvais. Mais nous collectons ces déchets et nous les faisons sécher. Nous utilisons ici tous les types de matières organiques. Donc ce que nous faisons, c'est que nous carbonisons cette matière. Carboniser signifie transformer ces déchets en noir de carbone. Pour cela, nous les brûlons dans nos installations, ici. Mais maintenant, notre plus gros défi, ce sont les machines. Les machines que nous avons ne sont pas conçues pour produire différentes tailles de briquettes. Nous produisons pour l'instant uniquement de grosses pièces qui peuvent être utilisées par les restaurants et les grandes institutions. Mais nous savons que les personnes qui endommagent l'environnement sont essentiellement au niveau des ménages. Donc, nous nous concentrons maintenant sur eux. Nous essayons d'obtenir des machines qui peuvent modeler des petites briquettes que les femmes à la maison peuvent utiliser tous les jours. Mais pour l'instant, comme nous n'avons pas de machine, le prix de nos briquettes est un peu élevé par rapport au charbon. Mais si nous obtenons des machines, nous pourrons baisser le prix. Si nous réduisons le prix, ainsi, beaucoup de ménages pourront se tourner vers nos briquettes. Un autre point positif est qu'elles ne produisent pas de fumée et elles brûlent plus longtemps. Watson peut venir et expliquer combien il en produit chaque jour.
Bien sûr. Les briquettes que nous faisons, celles qui sont en forme de nid d'abeille, une personne en une journée peut en faire 120-130.
C'est ici que nous séchons à la fois nos briquettes en nid d'abeille et nos briquettes en forme de bâtonnet. C'est pourquoi nous avons posé cette bâche ici. C'est pour arrêter la pluie et ainsi nous pouvons les faire sécher même la nuit. Cette machine a des tubes à l'intérieur. Vous voyez ? C'est comme des dents dans la machine. Il va mettre la matière. Et là, il presse. Et nous utilisons aussi les déchets du charbon. Ce pays utilise beaucoup de charbon et cela a causé vraiment beaucoup de problèmes pour l'environnement. Le charbon, c'est la déforestation. De plus, nous avons très peu d'électricité. Notre pays ne peut pas en fournir à tout le monde. Donc les gens utilisent le charbon. Et ce charbon a vraiment détérioré notre environnement. Nous pensons que si nous recyclons le charbon, nous pouvons consommer moins d'énergie. Et bien sûr, nous pensons que grâce à cela, nous pouvons diminuer le stress environnemental causé par l'utilisation du charbon.
Nsula nkaba kululwo Simani obawa bigalawo. Kaganzi ngando zantyo no sanyuka naye chanzi jemviri kumutwe bwanda ganti notosimye ekisera kiweddeyo tolabe nakubezigenze mama rin gwegwe nina simanyo boloza ki
roji norimba
mama rin oliesigani Wenjogero loza tinimbie Songa mama kwekwe nina Terino mwari kujawo Omwenge si chanywa Okuja konga tulinawe Kwenawe bintu byange Simanyio bawa bigalawo
sur RFI.
Igor Strauss.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Après l'Ouganda dans la première partie de cette émission, nous voici au Brésil, à Curitiba pour être plus précis, une métropole de près de 2 millions d'habitants située dans le sud du pays. La capitale de l'état du Paraná figure dans le top 10 des villes les plus écolos du monde, surnommée ville modèle d'Amérique du Sud. Curitiba est un exemple de développement durable car l'écologie est au centre de sa politique. Une ville verte où la nature est très présente, comme a pu le constater notre reporter Caroline Lefebvre.
Ce n'est pas un hasard si l'emblème de Curitiba est un arbre. En effet, la ville tire son nom du tupi et signifie forêt de pins. Curitiba a été construite autour du célèbre pin bicentenaire de la place Tiradentes. Ce lieu est identifié comme étant le point zéro de la ville. En choisissant ce symbole, les Curitibanos nous font comprendre qu'elle est une ville pensée autour des arbres et de leurs habitants, qu'ils soient à plumes, à poils ou à peau. Et pour mieux comprendre l'importance des espaces naturels dans la ville, nous voici à Unilivre, l'université libre de l'environnement. Cette université, pas comme les autres, est située dans une ancienne carrière rendue à la nature. En arrivant ici, nous nous faufilons à travers une forêt dense où nous sommes priés de ne pas déranger ses habitants. Et, au bout d'un ponton, nous découvrons une structure ronde, comme un grand nid en bois, où se nichent universitaires et grands oiseaux sauvages.
Bonjour, mon nom est Eduardo Batista.
Bonjour, je suis Eduardo Batista, chargé de projet à Unilivre. Unilivre est une ONG qui a pour mission d'informer la population de Curitiba sur les questions environnementales. Bon, la préservation de l'environnement est le fruit de plus de 100 ans d'aménagement du territoire et de réflexion sur l'urbanisation de Curitiba. Au Brésil, la majorité des villes n'ont pas pensé leur territoire, comme par exemple Rio de Janeiro, qui s'est développé depuis des siècles sans projet défini et qui maintenant doit détruire de l'espace urbain pour reconstruire des espaces verts. Dans les années 70, il y a eu une réflexion sur les inondations des voies de berge. Les parcs sont alors apparus comme une solution de rétention des eaux. Les deux premiers à avoir été créés, Barigui et São Lourenço, n'ont pas été pensés comme des parcs de loisirs, mais bien comme des espaces de drainage du surplus d'eau. Ainsi, l'idée était de réguler les crues des fleuves, préserver le biotope des berges, empêcher le squat et offrir un espace de loisirs.
Par la suite, comment ont été pensés les nouveaux parcs ?
Après, comme la population a adhéré à ces initiatives, de nouveaux parcs se sont créés autour d'autres problématiques. Il y a eu une stratégie de recyclage d'espace. D'ailleurs, Jaime Lerner, le maire qui a pensé ces parcs, parlait d'acupuncture urbaine. Il s'agit de récupérer un espace détérioré et laissé à l'abandon pour en faire un lieu agréable pour les habitants. Comme par exemple les anciennes carrières de minéraux qui ont subi un fort impact, qui ont été abandonnées puis transformées en parc. Comme ici à Unilivray qui est devenu maintenant un espace éducatif. Ou comme la carrière Paolo Leminski transformée en lieu de culture avec un opéra et une salle de concert à l'air libre. Ainsi que le parc Tanga, une ancienne carrière qui est devenue un des plus beaux parcs de la ville. Il y a aussi une série de parcs qui ont été créés dans le but de rendre hommage aux vagues d'immigration de la ville. Il y a par exemple le parc des Polonais, celui des Italiens, le parc allemand, celui des Portugais, des Ukrainiens, des Japonais. C'est une autre dynamique de développement des parcs. Et enfin, plus récemment, il y a la création des parcs linéaires, c'est-à-dire des parcs qui suivent le parcours de nos différents fleuves. Le but est de préserver leurs berges contre l'urbanisation et de garder des espaces naturels.
Quelle relation les habitants entretiennent-ils avec leurs parcs ?
Il n'y a pas de plage à Curitiba. La plus proche est à 100 km. Alors, les parcs sont devenus notre plage. C'est un lieu de loisirs pour les habitants. Les parcs accueillent beaucoup de touristes, mais aussi la population locale. Les gens viennent le week-end pour jouer au foot, se balader avec les enfants, faire du vélo, faire un pique-nique. La relation entre les Curitibanos et leur parc est très forte.
Bonjour. Tout va bien ? Je peux m'asseoir ?
Bien sûr, ma chère.
Merci. Quel est votre nom ?
Je m'appelle Lia Regina Paz.
Vous êtes de Curitiba ?
Oui, j'y ai toujours vécu.
Vous fréquentez beaucoup les parcs ?
Oui, je viens quand j'ai le temps.
Quel est votre parc préféré ?
Barigui.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts et d'ombre. Vous pouvez vous asseoir et regarder les gens marcher, faire du sport, observer les enfants jouer. Il y a des vendeurs de pop-corn. Tout ça crée un monde à part. C'est sympa. Ça vous permet de sortir de votre petit train-train. Ici, je m'évade. Comme il fait chaud, je suis venue avec mon mari, juste pour m'asseoir sous un arbre et me rafraîchir. Il n'y a pas meilleure climatisation que la nature.
Bonjour, je m'appelle Paul, je suis à Curitiba depuis 15 jours et je découvre le Brésil en voyageant.
Et vous êtes souvent venu dans les parcs de Curitiba ?
C'est mon cinquième parc. J'y vais à peu près tous les jours, en fait, pour découvrir la ville, vue de la nature.
Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans les parcs ?
Le fait qu'il y ait beaucoup de nature sauvage. C'est pas que des parcs organisés avec de l'herbe et des bosquets bien carrés. Il y a aussi des coins où on laisse en fait juste la nature se débrouiller toute seule. Il y a beaucoup d'animaux. Et, du coup, c'est très agréable. Ça change un peu des parcs en France qui sont très cadrés. D'ailleurs, on peut entendre les oiseaux sauvages.
Je m'appelle Sergio Tokyo. Je suis l'adjoint à l'environnement de la mairie de Curitiba.
Je voudrais savoir comment Curitiba est devenue l'une des villes les plus écolos du monde.
Existe une parole moderne. Sustainability.
Le développement durable est devenu un terme à la mode. Tout le monde en parle, tout est écolo maintenant. Je pense que c'est un concept subjectif, parce que tout le monde a sa propre définition. Ici, nous le comprenons de façon pragmatique. Pour nous, le développement durable commence par l'éducation des citoyens.
Quand vous consegue conscientiser, quand vous consegue motiver,
quand vous réussissez à éveiller les consciences, quand vous arrivez à informer les citoyens et à les motiver à agir, alors ils seront dans le développement durable. Si les citoyens sont écolos, alors leur environnement sera meilleur et ils en verront les bénéfices. C'est un cercle vertueux. Pour ça, on doit jouer un peu sur les sentiments. Il y a eu de nombreuses campagnes qui ont été créées afin d'éveiller la conscience écologique auprès de la population. Et elles ont tellement bien marché que les gens s'en souviennent encore 20 ans après. Nous nous focalisons surtout sur les enfants, particulièrement à l'école primaire. Nous avons toujours collaboré avec le service scolaire de la mairie. Nous avons réussi à ce que les manuels scolaires soient basés sur la citoyenneté et l'environnement. Le but étant que les élèves apprennent les matières principales comme les maths, les sciences, etc., en se basant sur l'environnement. Les résultats ont été très intéressants, car on s'est aperçu que les adultes apprennent auprès de leurs enfants. Les élèves rentrent à la maison, si motivés par ce qu'ils ont appris à l'école, qu'ils demandent à leurs parents de faire attention au recyclage, de bien trier les déchets. Le recyclage est une problématique importante ici.
En 2004, Unilivret a développé deux projets en collaboration avec la mairie. Un sur la surveillance des eaux fluviales par des élèves et l'autre étant un centre aéré socio-environnemental.
Vous pouvez m'expliquer ce dernier projet ?
L'objectif de ce centre aéré est d'offrir des activités extrascolaires à des enfants en difficulté. C'est une façon pour la municipalité d'éviter que les enfants traînent dehors. Cela s'adresse aux parents qui travaillent et qui veulent que leurs enfants restent dans un lieu adapté. On leur demande juste que les enfants soient scolarisés. Donc le matin, l'élève va à l'école, puis il passe l'après-midi au centre aéré. 5 ateliers y sont proposés. L'aide aux devoirs, des jeux, de l'expression corporelle, de l'éducation à l'environnement et un atelier artistique.
Sobre o projeto Olho d'Água. Comment est venue l'idée de faire surveiller l'eau des fleuves par les élèves?
C'est un projet que la mairie a mis en place en 1997. L'objectif était de mettre à contribution les élèves d'écoles publiques pour surveiller l'état de l'eau de nos fleuves. Ils vont sur place, recueillent un échantillon d'eau, effectuent les analyses, inscrivent les résultats dans une banque de données, puis nous envoient l'indice de qualité de l'eau. Le résultat, cela nous permet de surveiller l'état des eaux fluviales. À partir de ce diagnostic, la mairie intervient auprès des services d'assainissement afin qu'ils règlent les problèmes de pollution. Et on voit de beaux résultats au fil du temps.
Pourquoi faire intervenir des élèves et non pas des professionnels ?
À l'origine, on prenait des professionnels. Mais le fait que les élèves fassent les prélèvements pour nous les présenter, c'est un atout pédagogique indéniable. Le fait de sensibiliser les enfants à l'environnement, c'est une façon de faire bouger les adultes. Parce que quand un enfant pointe un problème du doigt, vous êtes bien obligé de faire quelque chose. Sinon, vous allez finir par le frustrer. L'idée derrière tout ça, c'est que les enfants deviennent acteurs de leur environnement et qu'ils en prennent soin.
Après plus de 25 ans d'éducation à l'environnement, est-ce que ces enfants sont devenus des adultes plus sensibles à l'écologie ?
Oui, j'en suis une preuve vivante. Enfant, j'ai bénéficié de ces programmes et maintenant je travaille dans ce domaine.
Nous avons déjà constaté le bénéfice de ces programmes. C'est la conséquence de toute l'information reçue par la population. Quand les gens sont bien informés, ils font les bons gestes. Et on verra d'autres résultats à l'avenir.
Je suis Ana Carolina, professeure d'éducation à l'environnement à l'école municipale Lina Maria Martins Moreira. Nous participons au projet de surveillance des eaux fluviales depuis l'année dernière avec une classe de CM1-CM2. Ce projet est venu enrichir mes ateliers d'éducation à l'environnement. À côté de l'école, nous avons le fleuve Barigui, où nous allons tous les mois vérifier la qualité de l'eau. C'est un chouette projet car les élèves peuvent appliquer sur le terrain ce qu'ils ont appris en cours. Sur place, ils collectent des échantillons d'eau pour en mesurer le pH. Ils sont toujours très surpris par les résultats. Une fois, ils ont trouvé des coliformes fécaux dans une eau qui paraissait pourtant propre, car elle était transparente et inodore. Ils ont été horrifiés d'y trouver ce type de bactéries. Cette activité est un vrai bonus pour mes cours. Mon cours englobe tous les domaines liés à l'environnement. On travaille sur le recyclage, comment contribuer à rendre le monde meilleur, le développement durable, la question des déchets et bien sûr, l'un des sujets abordés est l'eau.
À Curitiba, il n'y a pas que les enfants qui mettent la main à la terre. Depuis plus de 20 ans, la mairie aide la population à mettre en place des potagers bio dans les lieux publics, comme les écoles, les garderies ou encore les maisons de retraite. La ville en compte 150, dont 6 implantés dans des quartiers populaires, comme ici à Vitória Régia.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Je m'appelle Edson Rivelino. J'ai longtemps été chargé du développement des aires agricoles dans la ville de Curitiba. Le potager du quartier Vitória Régia a été créé au début des années 2000. Il est né d'un partenariat entre Electrosud, le fournisseur d'électricité régionale, la mairie de Curitiba et l'association Vitória Régia. L'espace que vous voyez ici, sous les pylônes électriques, restait vide. Et c'est sûr que ça allait devenir un terrain vague. Comme certains habitants du quartier commençaient à utiliser cet espace de façon désordonnée, Electrosud et la mairie se sont concertés et ont décidé de le transformer en potager collectif. Electrosud avait déjà construit des potagers. Quant à Curitiba, la mairie a commencé à implanter de l'agriculture urbaine dès les années 80. La mairie apporte l'appui technique et les engrais. Electrosud offre les espaces et leur entretien. Et l'association de quartier s'occupe de l'organisation avec les familles. De là est né ce concept de potager. On a commencé avec 30-40 familles. Aujourd'hui, nous avons une centaine de familles. Plus précisément, il y a 133 familles qui fréquentent ce jardin. Ils cultivent des légumes, de la convivialité, de la santé, de la thérapie, de l'activité. Bref, ici, l'agriculture est venue renforcer cette communauté. Les gens viennent en fin de journée, en début de matinée ou le week-end, voire des fois restent toute la journée, comme les retraités. Le jardin a créé une sorte de quartier dans le quartier. Vous prenez un espace comme celui-ci, vous le divisez en parcelles, chacun a sa parcelle, chacun s'en occupe comme il veut, mais le travail et les échanges restent collectifs. Ici, les gens sont toujours en train de se croiser. Quand vous regardez le terrain, vous n'y voyez pas de barrière ni de ligne de séparation. On dirait un seul potager.
Paolo, président de l'association du potager Vitória Régia.
On a un ami qui donne près de 80% de ses récoltes. Il trouve son intérêt dans les relations avec le voisinage. Ça s'appelle un potager collectif. Alors on est collectif. Il prend plaisir à partager son surplus de récoltes avec ses voisins. C'est vraiment génial d'échanger avec la communauté.
«
Comment les familles apprennent à cultiver leur potager?
On apprend avec les agronomes de la mairie, avec Edson et auprès des gens de la communauté. Celui qui sait montre aux autres comment faire. Il partage son expérience avec les nouveaux.
Edson Rivelin, responsable de l'agriculture urbaine à la mairie.
Et un autre fait intéressant, c'est que les premiers jardiniers sont devenus des passeurs de savoir. Aujourd'hui, quand arrive une nouvelle famille, elle est prise en charge par Polo ou les anciens du potager, qui sont capables d'enseigner à leur tour ce qu'on leur a appris. Cette entraide au sein du potager fait qu'ils sont devenus autonomes. Et la mairie continue de leur apporter un soutien technique quand ils le demandent.
Nous avons des amis qui ont un potager depuis 2001. Cela nous apporte beaucoup de joie. Moi, en tant que président de l'association et coordinateur d'un des jardins, j'ai mon potager. Le week-end, j'y vais juste pour papoter avec les copains, prendre des nouvelles. Ça devient un vrai point de rencontre amicale. Je pense que le plus sympa, en plus du jardin, c'est cette ambiance amicale. On est tous copains ici. Nous sommes le potager collectif Victoria Regia. C'est vraiment bien.
Ce type d'activité apporte du collectif. De nos jours, c'est devenu banal de ne plus connaître ses voisins. Il y a des familles qui vivent à côté sans se connaître.
Le potager collectif a aussi un côté social. Par exemple, si quelqu'un a un problème de santé, le coordinateur du jardin en parle aux autres jardiniers et tout le monde s'occupe du potager jusqu'à ce que la personne revienne. On prend soin les uns des autres.
En parlant de santé, vous mangez plus de légumes maintenant ou vous avez toujours eu une alimentation saine?
Quand je suis arrivé à Victoria Regia, mon premier potager était justement celui-ci, où nous sommes. J'ai commencé à jardiner ici, puis j'ai bougé pour le troisième jardin parce que c'est le plus proche de chez moi. Depuis que j'ai eu ce potager, en 2008-2009, je mange tout ce que je cultive, comme la laitue. J'aime aussi planter des espèces moins ordinaires, comme des brocolis, du chou-fleur, du quiabo, dont je raffole. Et du fait que tout produit chimique est interdit, je n'ai plus qu'à passer un coup d'eau avant de les manger. Encore ce midi, j'en ai ramené à la maison et on s'est fait une salade avec de la laitue, de la frisée, de la chicorée, de la mangue. C'est une recette que je vous recommande.
Mais vous en mangiez déjà avant ?
Non. Non, pas du tout. J'ai commencé à manger beaucoup de salade une fois que j'ai eu un potager. Mon fils a 9 ans. Il a quasiment appris à marcher dans le potager. Il est fan de brocolis et d'épinards.
Ce ne sont pas des légumes communs ici. Les plus consommés sont la laitue, les tomates, les concombres, le chou, parce que ce sont les plus connus. Mais quand vous voyez un enfant manger du jilo, du quiabo, des épinards, qui ne sont pas des légumes populaires auprès des enfants, c'est vraiment formidable.
Quand vous regardez le jardin où nous sommes, vous pouvez compter plus de 16 variétés de légumes.
Oh, Monsieur José. Est-ce que vous pouvez lui donner vos secrets pour avoir un si beau potager?
Oh non, il n'est pas joli.
C'est le vôtre?
Oui, c'est le mien. J'essaye de l'entretenir, je fais ma part. Chacun doit faire sa part.
On était justement en train de se dire qu'il était très bien organisé.
J'essaye d'y mettre un peu d'ordre. Il y en a qui ne savent pas trop l'ordonner. Il y en a qui mélangent tout, comme lui là-bas. J'aime bien quand tout est bien rangé, tout bien ordonné.
Depuis combien de temps avez-vous ce potager?
Ça fait presque 10 ans.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de jardiner?
Je m'y sens bien. Je me lève tous les matins à 6 heures, je bois un café et je viens ici, tous les jours. Parfois, ma femme me dit « Reste au lit, t'es trop vieux !» Mais non, je l'écoute pas. Je vais travailler au potager. Alors elle me dit « Oui, mais tu n'as pas d'horaire à respecter. » Je lui réponds « Si, je dois y être à 7 heures. 7h05 max. Si on l'écoute de midi moins 5, il est l'heure de partir pour arriver à midi à la maison et déjeuner. Alors, j'ai tout un planning à respecter. La récolte varie selon les mois, mais il y a quand même toujours assez pour se nourrir et en donner à la famille. Quand il y a du surplus, on le vend pour mettre du beurre dans les épinards. Je suis content, tout va bien. Il faut juste se motiver et aller de l'avant. Faut pas se laisser aller, hein.
Bah oui, ça maintient en forme. Et vous avez quel âge ?
72 ans.
72 ans et en pleine forme. Je connais des personnes de 60 ans qui restent sur leur canapé
et qui s'encroûtent.
Vous avez 72 ans, une santé de fer et la pêche. Vous arrivez ici à 7h du matin, vous repartez à la tombée du jour, vous allez et venez, vous travaillez toute la journée. Et vous consommez ce que vous produisez ?
Oh que oui ! C'est ce qui me fait vivre.
Et on va lui poser la même question que celle que vous avez faite à Paolo. Vous mangiez des légumes ou ce type de produit avant de faire votre potager ?
Non.
Et vous en mangez maintenant ?
Oh, oula, 10 fois plus ! Maintenant, le jour où ma femme ne fait pas de salade, je lui dis « Alors, ce n'est pas un repas. Je n'arrive plus à faire un repas sans salade. Ça peut être du chou, de la laitue ou des radis, de la chicorée. Mais je veux ma salade, c'est sacré. »
Et vous le partagez aussi avec vos enfants, vos petits-enfants ?
Ah, ils mangent de tout maintenant. Je leur donne des sacs de légumes. Ou alors, ils viennent le chercher au potager.
Nous avons une expression ici, elle nous vient d'un ancien adjoint, et elle dit ceci. Dans la nature, il faut demander la permission avant d'entrer. Alors si vous suivez cette règle, demandez la permission. Entrez, prenez place harmonieusement, et ça vous coûtera même moins cher. Les gens le comprennent et finissent par aimer. Je crois que c'est ça le grand secret de Curitiba. Nous ne sommes pas mieux lotis que les autres, mais nous avons réussi à réveiller cette envie collective au sein de notre population.
Essa vontade coletiva.
Vou acabar com a vida de um vício por mês. Fumo meu último cigarro pela primeira vez. Treme a minha mão por copo. Pela última vez. Nunca mais encontrei a canalha da cannabis. Acho que ela foi morar na tumba do lábio.
Curitiba la Verte, c'était un reportage de Caroline Lefer, réalisé par François Porcheron. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, un nouveau journal sur la Radio du Monde.
Curitiba, Curitiba, você é a única droga que eu vou admitir na minha vida. Curitiba, Curitiba, você é droga, que eu vou admitir na minha vida, que eu vou admitir, vou acabar com a vida de um vício por mês, fumo meu último cigarro pela primeira vez, treme a minha mão por um copo, pela última vez. Nunca mais encontrei a canalha da cannabis. Acho que ela foi morar na tumba do lápis. Do pó eu vim, vivenci e não retornarei ao pó. E não retornarei ao pó. Curitiba, Curitiba, você é droga que eu vou admitir na minha vida. Curitiba, Curitiba, você é a única droga que eu vou admitir na minha vida. Que eu vou admitir. Vou acabar com a vida de um vício por mês.